Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Ces paroles-là vont être aujourd'hui l'objet principal de notre méditation. On va vouloir concentrer toute notre attention possible sur ce que Dieu veut nous dire et la raison pour laquelle il a pu écrire ces choses et comment ces choses, en qui ces choses ont trouvé leur accomplissement. Puisse le Seigneur illuminer nos esprits. C'est ma prière. Bonjour à tous. Nous voulons aujourd'hui prendre cette opportunité encore une fois pour étudier la parole de Dieu, pour entendre Dieu nous parler malgré ces moments tumultueux dans lesquels nous vivons, troubles et tragiques de l'histoire de l'humanité sur la terre aujourd'hui. On veut se pencher attentivement sur la parole de Dieu et laisser Dieu faire peser les réalités qu'il y a écrites à notre égard et pour notre édification. La Bible, ce n'est pas un livre à poser sur l'étagère jusqu'à ce qu'elle prenne toute la poussière possible. Ce devrait être le livre qui est toujours au-dessus de la pile, tellement vous n'arrêtez pas de le sortir et de l'ouvrir et de le sonder. Si votre meilleur ami, si vous avez un meilleur ami et que ce meilleur ami vous parle à travers un livre de manière vivante, vous voulez lire ce livre constamment. Pas pour être simplement édifié de manière intellectuelle, mais pour, en lisant la parole de Dieu, être transformé de manière spirituelle, tangible, que l'on puisse voir les fruits dans votre vie. Parce que Jésus a dit que si nous ne voyons pas de fruits, c'est que l'arbre est pourri. Donc maintenant que nous réfléchissons à ce que nous avions vu jusqu'ici, vous vous rappellerez qu'on a vu que nous sommes appelés à une repentance profonde et véritable. Vous savez, une repentance intérieure qui vient du cœur et qui ensuite se développe vers les actions, les actes extérieurs. Nous avons vu que nous sommes appelés à une telle repentance, à tomber sur le rocher qui est Jésus-Christ et à nous y briser. Et on a pris le temps de voir ce que cela voulait dire et on a compris que tomber sur le rocher qui est Christ, c'est passer par une expérience à laquelle Dieu nous appelle, dans laquelle nous ressentirons que nous ne valons rien. Et nous laisserons notre orgueil devenir véritablement une ordure à nos yeux, comme l'apôtre Paul l'exprimait. pour que je gagne Christ, ces choses qui m'étaient un gain, je les ai considérées comme des ordures, afin que je gagne Christ, que je sois trouvé en lui. C'est ça notre désir, notre objectif, c'est d'être trouvé en lui, n'ayant non pas notre propre justice qui vient de la chair, qui vient de la loi, de notre propre observation légaliste, égoïste de la loi, mais la justice qui vient de Dieu par la foi de Christ. Mais plus encore que d'arriver et de pratiquer cette repentance à laquelle on est appelé, comme nous l'avions vu, plus encore que cela, nous avons besoin de voir que la chose à laquelle Christ nous appelle, à laquelle Dieu nous appelle, c'est la chose même que lui, Jésus, a faite et qu'il a endurée et qu'il nous a ainsi rendu possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chose à laquelle Jésus nous appelle, il est venu comme le berger de nos âmes la faire de telle manière qu'il n'est jamais un seul chapitre de notre vie dans lequel nous puissions à juste titre lui dire « Mais tu ne connais pas ça Dieu, tu n'as pas fait mon expérience. » Maintenant, ayant descendu jusque dans les profondeurs de la dégradation humaine et ayant souffert toutes les choses que nous souffrons, maintenant Jésus-Christ peut nous regarder en face et nous dire avec tout l'amour possible qui est dans le cœur de Dieu, non, ne dis pas ça, mais regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et donc, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, faire exactement ce qu'il nous demande et ce qu'il nous appelle à faire, le considérer. On va pour cela dans Hébreux, chapitre 12, Hébreux, chapitre 12, versets 3 à 4. Il nous appelle à le considérer. Jésus nous appelle. Il nous dit, regarde-moi, regarde ce que j'ai fait pour toi. On lit, c'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Qu'est-ce que nous avons lu? Considérez Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Pourquoi? Pour que nous ne succombions pas en laissant défaillir nos âmes, en nous laissant aller au découragement et au plaisir de ce monde. Quand est-ce que nous nous laissons aller comme ça? Lorsque nous ne considérons pas Jésus. Dans le tableau qu'il nous a laissé et donné de lui-même, dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous y voyons? Nous sommes appelés à le considérer. Et qu'est-ce que nous y voyons quand nous faisons cela, que nous le considérons? La suggestion, elle se trouve dans le verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Mais il y en a un qui l'a fait. Il a fait quelque chose pour nous que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Mais il nous a aussi laissé un exemple que l'on pourrait suivre et vers lequel maintenant le Saint-Esprit dirige notre attention. C'est important que on se souvienne de ces deux aspects-là parce que il nous laisse un exemple, mais en même temps, il y a quelque chose dans cet exemple que nous ne pouvions pas faire de nous-mêmes, de nos propres forces. Et c'est ce que nous voulons voir tout de suite. Quelle est cette chose que Jésus a faite que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes? Ça se trouve dans 1 Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 21 à 24. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc Jésus n'a pas simplement vécu sur la terre pour faire quelque chose pour nous que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Parce qu'il est écrit ici que il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Aujourd'hui, je vais vraiment insister sur ces deux points. Parce que la parole de Dieu insiste de manière répétée sur ces deux points, c'est-à-dire que Jésus s'est donné pour nous, non pas pour nous sauver de manière passive, mais en exemple à nous, pour que nous suivions ses traces, que nous imitions son exemple. Verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui, outragé, ne rendait point d'outrage, et maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Qu'est-ce que nous retenons de ces paroles? Il nous a laissé un exemple en ce qu'il n'a point commis de péché, en ce qu'il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche, en ce que, outragé, il ne rendait point d'outrage, et que, maltraité, il ne faisait point de menace, mais s'en remettait à Dieu qui juge justement. Et aussi, en ce que, ayant porté nos péchés, en son corps, il nous a montré que, étant nous-mêmes morts au péché, par cela même, nous puissions vivre maintenant à la justice et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Donc tout cela, c'est un exemple qu'il nous laisse et par lequel il nous soutient et nous aide et nous donne la faculté, la puissance que nous, comme nous lisons dans Jean chapitre 1, de devenir les fils de Dieu. Pas simplement le droit, mais la puissance par le Saint-Esprit de suivre le chemin qu'il a tracé, de suivre son exemple, de suivre ses traces. Donc la Bible ici je le répète, nous montre que Jésus est l'activité par laquelle il sauve le pécheur, nous a donné un exemple pour que nous suivions son exemple. Pas pour que nous nous avachissions sur notre canapé devant l'évangile que Dieu nous donne et que nous attendions passivement que Dieu fasse tout le travail, mais pour que en voyant, en ayant cette vision de Jésus-Christ devant nos yeux, juste là, devant notre face, nous soyons contraints, nous nous ressentions à l'intérieur de nous-mêmes ce désir de répondre à l'amour de Dieu qui a fait en Jésus-Christ un tel sacrifice pour nous motiver. Ça, c'est la partie à travers laquelle Dieu nous donne un exemple pour et dans lequel il nous appelle à suivre l'exemple. Mais au verset 24, il y a quelque chose qui sera aussi le sujet principal de notre méditation aujourd'hui, quelque chose où nous voyons que le rocher sur lequel nous sommes appelés à tomber et à nous briser, c'est le rocher qui a été lui-même brisé. Qu'est-ce que nous lisons ? Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, étant morts au péché, nous vivions à la justice. Et comment est-ce que nous sommes morts au péché, nous pouvons considérer que le péché n'a plus d'emprise sur nous parce que lui, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, sur la croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'interprétations de cette réalité biblique qui poussent les gens à agir de manière irresponsable face aux responsabilités qui nous incombent en tant que personnes qui professent le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que nous prenons l'évangile et nous nous réjouissons que Dieu a voulu manifester un tel amour, nous bénir d'un tel amour, mais nous ne répondons pas à cette motivation céleste que Dieu donne aux enfants de Dieu d'être transformés à l'image de Dieu. Donc ça, c'est une des réponses. Et aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est aller à l'encontre et à l'inverse de ce courant de pensée dans le christianisme moderne qui veut que nous n'avons rien à faire et nous pouvons simplement prétendre être chrétien, aller quelquefois à l'église, peut-être même chaque semaine, que ça soit le samedi ou le dimanche, mais sans vraiment nous engager dans ce dans quoi Jésus-Christ s'est engagé pour nous. Parce qu'il a souffert pour nous, comme nous avons lu. Et donc, en tout cela, il nous a laissé un exemple pour que nous ne succombions pas en laissant défaillir nos âmes, mais que la vision que nous avons de lui nous ranime de cette ferveur et de cet amour qui l'a poussé à faire cela pour nous, à se donner en sacrifice pour des pécheurs indignes. Mais dans son activité rédemptrice qui nous a laissé en exemple pour notre activité personnelle du salut, en coopération avec lui, il y a aussi quelque chose qu'il a fait pour nous que nous ne pouvions et que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Il a porté nos péchés. Et donc j'ai mentionné une des mauvaises interprétations de ce que cela veut dire. Maintenant, puissions-nous maintenant nous concentrer sur ce que la parole nous dit sur le sens de ces paroles de 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Et pour cela, sans plus tarder, j'aimerais qu'on se tourne vers une citation de l'esprit de prophétie que l'on trouve dans le commentaire biblique à la page 985 qui nous montre le prix qui a été payé et le sens de ce que nous avons lu que Jésus a porté nos péchés en son corps. Je lis. On n'a pas demandé à l'homme de se charger des péchés du monde. Et il ne connaîtra jamais l'horreur de la malédiction du péché que porta le Sauveur. Aucune douleur ne peut être comparée avec la douleur de celui sur qui tomba la colère de Dieu avec une force si écrasante. La nature humaine ne peut supporter l'épreuve et l'affliction que dans une certaine limite. L'homme fini ne peut supporter qu'une certaine mesure de souffrance, puis la nature humaine succombe. Mais la nature de Christ possédait une plus grande capacité de résistance à la souffrance. Car la nature humaine existait dans la nature divine, créant ainsi une capacité pour souffrir et supporter les conséquences des péchés d'un monde perdu. L'agonie que Christ endura approfondit et donne une conception plus vaste du caractère du péché et de la nature du châtiment que Dieu fera descendre sur ceux qui persistent dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ pour le pécheur qui se repent et qui croit. Donc, est-ce que vous voyez, comme nous avons lu, l'homme n'a pas été fait victime expiatoire. Dieu n'a pas demandé à l'homme de se charger des péchés du monde. Et on ne connaîtra jamais l'horreur de la malédiction du péché que porta le Sauveur. Aucune douleur ne peut être comparée avec la douleur que Jésus a soufferte quand la colère de Dieu est tombé sur lui avec une force si écrasante. Et ensuite, il y a marqué que la nature de Christ possédait une plus grande capacité de résistance à la souffrance. Ce n'est pas qu'il avait un avantage sur nous face à la tentation, c'est simplement que dans son innocence, par la nature divine qui demeurait dans la nature humaine, cela lui donnait une capacité de résistance à la souffrance qui était nécessaire pour qu'il puisse porter nos péchés. Le fait est que vous et moi, nous ne portons que nos péchés, nos propres péchés, nos propres transgressions de la loi de Dieu. Et notre culpabilité. Mais lui, Jésus, il a porté combien ? La Bible dit nos péchés en son corps. Et Jean-Baptiste, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de qui ? Le péché de combien ? Qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, l'ampleur du sens de ces paroles pour nous ? Est-ce que vous avez besoin de cela ? C'est cela le don que Dieu a fait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le don de Dieu ? Le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ pour le pécheur qui se repent et qui croit. Le don de Dieu, c'est pour qui ? La vie éternelle, c'est pour qui ? La vie éternelle par Jésus-Christ, elle est pour le pécheur qui se repent et qui croit. Est-ce que vous croyez ? Est-ce que nous nous repentons ? Si nous nous repentons de nos fautes et que nous croyons que Dieu a fait un tel sacrifice pour moi, pécheur, la vie éternelle m'est promise. Et j'ai la vie éternelle à l'intérieur de moi tant que je suis un pécheur qui me repent et qui croit. Si je me détourne de la grâce de Dieu, je ne suis plus le pécheur qui se repent et qui croit. Mais si nous nous saisissons, nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Et que nous tombons sur le rocher en disant, Jésus, je te donne ma folie, mon péché que j'ai commis contre toi. Si nous nous repentons et que nous croyons en cet amour, que nous exerçons la foi de Jésus-Christ, la vie éternelle est à l'intérieur de nous, comme une semence qui germera et qui portera du fruit éternellement si nous la gardons à l'intérieur de nous. Quelle est cette semence ? Cette semence incorruptible, la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et donc, qu'est-ce que cela fait, ces choses ? Qu'est-ce que cette vision nous fait ? L'agonie que Christ endura. Que fait-elle ? Elle agrandit, elle approfondit notre conception et elle nous donne une conception plus vaste du caractère, du péché et de la nature du châtiment que Dieu fera descendre sur ceux qui persistent dans le péché. Quoi ? Qu'est-ce que Dieu dit ici ? Qu'est-ce que Dieu dit ici ? Le salaire du péché, qu'est-ce que c'est ? La mort. Qu'est-ce que Jésus a enduré ? Son agonie, ses souffrances. L'agonie que Christ endura nous fait comprendre la nature du châtiment que Dieu fera descendre sur ceux qui persistent dans le péché. C'était ça son agonie. Il a souffert le châtiment qui tombera sur le pécheur non repentant. Le pécheur qui a résisté aux appels de Dieu, qui a repoussé Dieu, qui a commis le blasphème contre le Saint-Esprit, qui a amassé sur lui tous les péchés de sa vie et toute sa propre culpabilité, c'est cela que Jésus-Christ a souffert, le châtiment que ce pécheur-là mérite et recevra. Le péché du monde. Vous voyez, c'est ces choses que Dieu nous montre et par lesquelles il veut créer, produire quelque chose en nous. Qu'est-ce qu'il veut produire? Allons dans Ésaïe chapitre 53 qui était notre lecture biblique. Et cette fois-ci, on va lire plus largement. Ésaïe 53, versets 2 à 7. Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, et connaissant la souffrance comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé, mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé. Et il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il n'ouvre point la bouche. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui nous est présentée dans ces paroles? Cette personne sur qui l'Éternel a fait venir l'iniquité de nous tous. Nous l'avons lu déjà dans 1 Pierre chapitre 2, où nous avons lu qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois, en son corps, nos péchés. Qu'est-ce que c'était? il a pris sur lui la malédiction du péché. Il a souffert le châtiment que Dieu fera descendre sur ceux qui persistent dans le péché. Il n'y a rien qui est laissé pour compte ici. Rien qui n'est oublié. Rien qui ait été laissé de côté. Rien qui ait été ignoré. Il a tout pris sur lui. Et dans Actes chapitre 8, versets 30 à 35, lorsque l'eunuque lisait ces paroles d'Ésaïe, Philippe lui a dit, « Est-ce que tu comprends ?» L'eunuque lui a dit, « Comment est-ce que je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique pas ?» Et Philippe, prenant la parole, commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça Jésus. Vous voyez comment la parole de Dieu est si concise, si précise et si puissante pour le pécheur qui se repent et qui croit. L'eunuque était un pécheur repentant et il voulait savoir et Philippe lui annonça Jésus. Comment est-ce qu'il lui annonça Jésus ? Exactement en exprimant les choses que nous sommes en train de lire et d'entendre. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin. Et quoi ? L'Éternel nous a frappés. L'Éternel nous a giflés. L'Éternel a fait descendre le feu sur nous. Non. L'Éternel a fait venir sur lui l'agneau, l'iniquité de nous tous. Contemplons. Contemplons, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu dit ici ? Dieu, il dit, voilà ce que je fais pour toi, pécheur. Viens à moi. Viens à moi, ne tarde plus. Philippe lui annonça Jésus. Il est maltraité. Il est affligé. Il n'ouvre point la bouche comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il n'ouvre point la bouche. Qu'est-ce que nous avons lu ? Outragé, il ne faisait point de menaces. Il n'ouvrait point la bouche. Il ne s'est trouvé aucune fraude en sa bouche. Il n'a point commis le péché. Voilà le rocher brisé pour nous. Donc lorsque Dieu nous appelle à tomber sur le rocher qu'il nous montre a été brisé lui-même en recevant sur lui l'iniquité de nous tous. Qu'est-ce que nous avions lu avant ? Celui qui tombe sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombe sera mis en pièces. Jésus était à la place de celui sur qui tombe la pierre. Celui qui n'a plus aucun espoir, celui qui est séparé de Dieu, coupé de la grâce, banni éternellement du ciel. Voilà l'agonie de Jésus. Et Dieu fait éclater son amour envers nous dans cette vision. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. qu'il n'y a plus de place pour se morfondre, se décourager, se plaindre, parce que Jésus se montre à nous comme prenant sur lui le châtiment complet de la transgression de la loi de Dieu. Il n'y a rien qui laissait ignorer, manquer, tout est là, placé dans l'âme de Jésus. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il a fait ce qu'on ne pouvait pas faire pour nous-mêmes. Il est mort pour nous. Pourquoi ? Pour nous délivrer de l'emprise du péché, pour que nous-mêmes étions maintenant morts, nous faisions quoi? Nous vivions à la justice, comme nous l'avions lu dans 1 Pierre. Donc, il ne s'agit pas d'un salut, d'une activité de salut passive. Il ne s'agit pas d'une activité passive pour notre salut. Et c'est comme cela que Dieu fait éclater son amour, c'est que à peine nous mourions pour injuste, une personne qui est juste, qui ne dit pas du tout de gros mots, qui ne boit pas du tout d'alcool, pour une personne qui nous semble juste sur la surface, sans l'amour de Dieu en nous, à peine nous mourions pour cette personne, nous nous dirions « mais je suis pas trop sûr que j'ai envie de mourir pour elle ». Parce que nous sommes naturellement égoïstes. Donc sans l'amour de Dieu, que Dieu a fait éclater dans le sacrifice de Jésus, sans cet amour, ces choses-là ne font pas de sens pour nous, parce que peut-être on se résoudrait à mourir pour un homme de bien. Peut-être on se dirait, oh, il est peut-être un peu bien cette personne-là, peut-être que je me donne pour lui. Et encore, on se dirait, oh, mais peut-être que ça vaut pas trop le coup. Même s'il est super bien cette personne-là, j'ai pas trop envie de me donner pour lui. Vous voyez, c'est la mentalité de la chair, de l'être humain dégradé, avili de sa condition première en Adam et Ève. Nous ne nous donnerions probablement pas. Peut-être il y a des patriotes qui se donnent pour la patrie, pour l'honneur. Et encore, cela demande beaucoup, beaucoup de courage, mais ce ne serait que pour des fins obscures, sans réel plan noble et divin. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelqu'un qui vous crache au visage, quelqu'un qui vous dit « pars de là, je veux pas te voir toi, pourquoi tu viens à moi ?» Est-ce que vous avez envie de vous donner pour lui? Les personnes, les patriotes qui donnent leur vie pour leur patrie, ils ont un idéal de leur contrée, qu'ils se font de leur image, en raison duquel ils se donnent. Donc ils ont l'impression de se donner pour une bonne cause, mais est-ce que vous vous donneriez pour quelqu'un qui donne l'impression qu'il ne se soucie même pas de lui-même? Vous vous diriez, mais toi, allez, pourquoi je me donne pour toi? Mais Dieu fait éclater son amour en cela, que lorsque nous étions comme ça, Jésus s'est donné pour nous, à cette agonie-là. Et j'aimerais lire, dans la tragédie des siècles, à la page 588 au paragraphe 1, ce qui suit. Dieu déclare dans sa parole d'une manière décisive qu'il punira les transgresseurs de sa loi. Ceux qui s'imaginent que Dieu est trop miséricordieux pour exécuter sa justice sur le pécheur n'ont qu'à porter les regards sur la croix du calvaire. La mort de l'Immaculé Fils de Dieu témoigne du fait que le salaire du péché, c'est la mort, et que toute transgression de la loi de Dieu recevra sa juste rétribution. Christ, sans péché, devint péché pour l'homme. Il porta la culpabilité de la transgression. Il vit son Père lui cacher sa face, jusqu'à ce que son cœur fût brisé et sa vie lui fût arrachée. Ce grand sacrifice fut consenti pour racheter le pécheur. Il n'y avait aucun autre moyen pour l'homme d'être libéré de la peine du péché. En conséquence, toute âme qui refuse d'avoir part à l'expiation acquise à un tel prix doit porter en sa propre personne la culpabilité et le châtiment de la transgression. Donc voilà, Jésus a porté la culpabilité de nos transgressions. Et le Père lui a caché sa face jusqu'à ce que le cœur de Jésus fût brisé et que sa vie lui fût arrachée. Et il a consenti à faire ce sacrifice pour nous racheter, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen pour l'homme d'être libéré de la peine du péché. En conséquence, toute âme qui refuse d'avoir part à cette expiation acquise à un tel prix devra porter en sa propre personne la culpabilité et le châtiment de la transgression. Vous voyez pourquoi il n'y a aucune excuse ? C'est parce que Jésus a tout porté sur lui, en lui, les choses que nous devions souffrir. Et si après l'avoir vu se charger sur lui de tout le poids du péché du monde, nous refusions d'avoir part à l'expiation qu'il nous a procuré à un tel prix, nous devrons porter en notre propre personne la culpabilité et le châtiment de la transgression. Mais il l'a porté. Il l'a porté et nous voulons regarder à cela. Et je veux souligner le fait, frères et sœurs, que il faut insister longuement pour que nous puissions bénéficier du message qui est compris dans ces paroles. Parce que comme nous l'avions lu, le pharisien avait une armure, de propre justice qui empêchait le Saint-Esprit de pénétrer. Et probablement nous avons cette même armure, carapace, protection qui empêche Dieu d'appliquer sa parole au plus profond de notre être. C'est pour cela qu'il nous faut faire preuve de concentration, de dévotion et de dévouement pour que Dieu puisse toucher nos cœurs par ses flèches aux pointes barbelées que les anges tirent vers nos cœurs avec toute leur précision. En lisant cette parole de Dieu, ces paroles de l'esprit de prophétie, les anges essayent de toucher nos cœurs. Et puissent-ils rencontrer du succès dans nos vies, frères et sœurs, c'est ma prière. Puissions-nous ne pas nous dérober à cette activité, mais nous plonger dans cet examen profond de notre propre condition et trouver Jésus dans notre bas-fond, dans notre terrible condition de pécheur sans espoir, que nous puissions réaliser vraiment que c'est notre réalité, au-delà de nos illusions, que nous puissions nous saisir de ces promesses qui sont contenues dans ce que nous avons lu. Parce que si Christ sans péché est devenu péché pour l'homme, alors, si nous nous saisissons de cela, nous pourrons réellement être morts au péché et être purifiés de nos péchés et les laisser être confessés et effacés du sanctuaire céleste. C'est notre profession de foi que nous croyons en cela et maintenant manifestons aux yeux de l'univers que nous y croyons vraiment et que nous sommes prêts à faire les choses que Dieu nous appelle à faire. Et quel était le langage de Jésus lorsqu'il faisait cela, qu'il passait par cette expérience pour nous, dans laquelle il fait éclater son amour envers nous? Le psaume 22, versets 2 à 3 d'abord, ensuite versets 15 à 19. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement? Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point, et la nuit, et je n'ai point de repos. Verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se sont déjoints. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme la brique, ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as couché dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une bande de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os, ils me considèrent et me regardent, ils partagent entre eux mes vêtements, ils tirent ma robe au sort. Et nous savons que c'est les paroles de Jésus parce que c'est ce qu'il a exprimé sur la croix comme nous le lisons dans les évangiles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est également vérifié au verset 18 et 19 parce que Jésus, contrairement aux deux voleurs qui étaient à sa gauche et à sa droite, ils n'ont pas brisé ses os et ils pouvaient donc dire « Je compterai tous mes os Et également les soldats romains se sont partagés entre eux ses vêtements et ils ont tiré sa robe au sort parce qu'elle n'était que d'une pièce. Et donc il dit, mais moi, nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés en toi et tu les as délivrés. Mais moi, verset 7, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se raillent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Vous voyez Jésus ici? Il fait cela pour nous. Il fait cela pour moi. Il dit, moi, je suis un ver. Et comment je sais qu'il fait cela pour moi? Verset 24, il dit, vous qui craignez l'Éternel, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, toute la race d'Israël, redoutez-le. Pourquoi? Car il n'a point méprisé ni dédaigné l'affliction de l'affligé. Il ne lui a point caché sa face, mais il l'a exaucé quand il criait vers lui. Les humbles mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le loueront. Votre cœur vivra à perpétuité. Et donc il faisait ça pour nous qui craignons le Seigneur, l'Éternel. Et il disait, louez-le, redoutez-le, aimez-le parce qu'il ne m'a pas méprisé. À la fin, il m'a exaucé. Parce qu'il a mis sa foi au Père. Et qu'à la fin, il a pu dire, Père, je remets mon âme entre tes mains. Et au psaume 69, nous voyons encore une fois que c'était bien pour nous qu'il faisait cela. Ici, le psaume 69 parle encore de lui. Il dit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie ». Et verset 7, il dit « Que ceux qui s'attendent à toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à mon sujet, ô Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la honte a couvert mon visage. » Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Pour que nous ne soyons pas honteux lorsque nous sommes chargés de nos péchés et que nous voulons être réconciliés à Dieu. Il a pris tout cela pour que lorsque moi je suis sans espoir, sans issue, sans pardon, je puisse me saisir de ses mérites par la foi et trouver en Dieu un Père et que je puisse me réfugier dans les bras de ce berger, de cet évêque de nos âmes. Et donc, il a porté la culpabilité du péché, il a souffert que le Père lui cache sa face jusqu'à ce que son cœur soit brisé et que sa vie lui soit arrachée. Et il disait, mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Qu'est-ce qu'il disait? L'opprobre m'a brisé le cœur. L'opprobre a brisé le cœur de Jésus. Pour que lorsque notre cœur est faiblissant, nous puissions être fortifiés par cette vision de Jésus affaibli, du rocher qui a été brisé pour moi. Il s'est brisé pour moi. Sur lui est tombée la pierre de justice. La justice de Dieu, le châtiment que Dieu fera descendre sur le pécheur impénitent, il l'a prise sur lui. Et maintenant, j'aimerais lire une dernière citation dans le livre « La puissance de la grâce » à la page 325, les paragraphes 5 et 6. Directement à la suite et dans la continuité de cela, l'esprit de prophétie veut faire appel à nos affections pour lui et nous dit « Oh, si vous l'aimiez comme il vous a aimé, vous ne refuseriez pas une expérience dans les sombres heures des souffrances du Fils de Dieu. » Lorsque nous méditons sur l'humiliation de Christ, contemplant son renoncement et son sacrifice, nous sommes stupéfaits devant la manifestation de l'amour divin envers l'homme coupable. Et quand, par amour pour Christ, nous sommes appelés à traverser des épreuves humiliantes, si nous avons la pensée de Christ, nous les supporterons avec douceur, sans éprouver de ressentiment pour les torts subis et sans nous opposer à la douleur. Nous révélerons l'esprit qui habitait en Christ. Vous voyez comme cela rejoint ce que l'on a lu jusqu'ici? Quand il était outragé, il ne disait point d'outrage. Quand on l'injuriait, il ne faisait pas de menaces. Il n'éprouvait pas de ressentiment pour les torts que on lui faisait subir et il ne s'opposait pas. Il ne s'est pas opposé à la douleur, mais il a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Qu'est-ce qui est écrit ? Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et donc, comme nous lisons, si nous l'aimions comme il nous a aimés, nous ne refuserions pas une expérience dans les sombres heures des souffrances du Fils de Dieu. Donc il nous appelle à cette expérience. C'est ça que cela veut dire. Nous sommes appelés à ne pas refuser une expérience dans les sombres heures des souffrances du Fils de Dieu. Parce que comme il est écrit dans le dernier paragraphe, nous devons porter le joug de Christ. Travailler comme lui au salut des perdus et ceux qui ont part à ses souffrances auront aussi part à sa gloire. Voilà pourquoi Dieu veut nous faire traverser une expérience dans les sombres heures des souffrances du Fils de Dieu. Parce que nous sommes appelés à suivre ses traces, à suivre son exemple, à avoir part à ses souffrances. Donc Dieu nous appelle à ne pas refuser une expérience dans les chapitres obscurs des souffrances de Jésus. Et cela signifie que nous devons contempler l'humiliation du Fils de Dieu avec une telle intensité que l'on en devienne vivifié d'une capacité à endurer le renoncement et l'humiliation, et qu'on prenne par cela plaisir à ce qui auparavant semblait si amer et insupportable. Voilà ce que ça veut dire de accepter une expérience dans les sombres heures des souffrances de Jésus. Ça veut dire que je vais regarder à lui avec une telle intensité que j'en deviendrai vivifié d'une capacité divine à endurer le renoncement et l'humiliation comme lui, il le pouvait. Moi, c'est simplement de ma petite mesure, dans une certaine limite, que Dieu m'appelle à le faire, mais Jésus, il a tout enduré. Il avait cette capacité sublime par laquelle il a pu prendre sur lui tous les péchés du monde. Et il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, sauf qu'il n'a pas péché. Et en cela, il nous apporte du secours, il nous apporte de la consolation dans nos expériences. Et donc parce que Jésus, il a bu cette coupe amère jusqu'à la lie, maintenant il nous la présente pour la partager avec nous. Comme il le dit dans Apocalypse 3:20, qu'est-ce qu'il dit ? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est l'appel de Jésus à Laodicée. C'est l'appel de Jésus au quelqu'un qui est sorti de Laodicée. C'est l'appel de Jésus durant la période de Laodicée, qui est la dernière période d'église de l'histoire de l'humanité. Et quel est cet appel ? Si nous entendons sa voix, si quelqu'un entend ma voix, nous dit-il, qu'est-ce qu'il doit faire ? Ouvrir la porte. Alors Jésus entrera en nous, et si nous lui permettons, il soupera avec nous et nous avec lui. Et donc, ouvrons la porte de notre cœur à Jésus. Et tombons sur le rocher brisé qui est Christ. Si nous souffrons avec lui, comme c'est écrit, nous serons aussi glorifié avec lui. Et tandis que nous faisons cela, comme c'est écrit dans Apocalypse 3:21, il nous dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Puissions-nous prendre à cœur qu'il y a bel et bien une croix avant la couronne. La souffrance, les souffrances de Jésus avant la gloire. Puisse Dieu bénir cette méditation en nos cœurs et nous fortifier pour accepter cette pierre angulaire qui est Jésus. Accepter de tomber sur ce rocher qui est Christ et embrasser, épouser celui qui s'est chargé de tous nos péchés. Et laisser nos péchés lui être confessés en nous en repentant pour qu'il soit effectivement effacé du sanctuaire céleste, que nous puissions avoir part à sa gloire, c'est ma prière. Amen.